Villiers de l'Isle-Adam, Catalina. Ma délicieuse et solitaire villa, sise au bord de la Marne, avec son enclos et son frais jardin, si ombreuse l'été et si chaude l'hiver, mes livres de métaphysique allemande, mon piano d'ébène au son pur, ma robe de chambre à fleurs éteintes, mes six commodes pantoufles, ma paisible lampe d'étude, et toute cette existence de profonde songerie si chère à mes goûts de recueillement, oui, je résolus, par un beau soir d'été, d'en secouer les charmes durant quelques semaines d'exil. Voici, pour me détendre l'esprit de ces abstraites méditations auxquelles j'avais trop longtemps consacré, me semblait-il enfin toute ma juvénile énergie, je venais de concevoir le projet d'accomplir quelques gais voyages où les seules contingences du monde phénoménal distrairaient par leur frivolité même l'anxieux état de mon entendement quant aux questions qui l'avaient jusque-là préoccupé. Je voulais ne plus penser, me reposer le mental, sommeiller les yeux ouverts comme un vivant convenu. Un tel voyage de récréation ne pouvait d'abord, se présumais-je, qu'être utile à ma chère santé, car je m'étiolais en vérité sur ces redoutables bouquins. Bref, d'après mon espoir, pareille diversion me rendrait au parfait équilibre de moi-même, et certes, j'apprécierais au retour les nouvelles forces que cette trêve intellectuelle m'aurait procurées. Voulant m'éviter en cette excursion toute occasion de penser ou de rencontrer des penseurs, je ne voyais guère sur la surface du globe, à l'exception de pays tout à fait rudimentaires, oui, je ne voyais qu'une seule contrée dont le sol fantaisiste, artistique et oriental n'a jamais fourni de métaphysicien à l'humanité. À ce signalement, nous reconnaissons, n'est-il pas vrai, la péninsule ibérique. Ce soir-là donc, et à cette réflexion décisive, assis dans la tonnelle du jardin où, tout en suivant du regard les spirales opalisées d'une cigarette, je savourais l'arôme d'une tasse de pur café, je ne résistais pas, je l'avoue, au plaisir de m'écrier « Allons, vive la fugue joyeuse à travers les Espagnes !» Je veux me laisser à mon tour séduire par les chefs-d'œuvre du bel art sarrasin, par les ardentes peintures des maîtres passés, par la beauté apparue entre les battements de vos éventails noirs, pâles femmes de l'Andalousie. Vive les villes souveraines, au ciel enchanté, aux chatoyants souvenirs, et que la nuit, sous ma lampe, j'ai entrevu dans les récits des touristes. À moi aussi, Cadiz, Tolède, Cordoue, Grenade, Salamanque, Séville, Murcie, Madrid et Pamplune. C'est dit, allez, partons. Toutefois, n'aimant que les aventures simples, les incidences et les sensations calmes, les événements en rapport avec ma tranquille nature, je résolus au préalable d'acheter l'un de ces guides du voyageur, grâce auxquels on sait à l'avance ce que l'on va voir, et qui préserve les tempéraments nerveux de toute émotion inattendue. Ce devoir dûment rempli dès le lendemain, je me nantis d'un portefeuille modestement mais suffisamment garni, je bouclai ma légère valise, je la pris à la main, et laissant ma gouvernante stupéfaite à la garde de la maison, je me rendis en moins d'une heure en notre capitale. Sans m'y arrêter, je criai à un cocher de me conduire à la gare du Midi. Le lendemain, de Bordeaux, j'atteignis Arcachon. Après une bonne et rafraîchissante plongée dans la mer, suivie d'un excellent déjeuner, je m'acheminai vers la rade. Un steamer, justement en partance pour Santander, le Vélos, m'apparut. J'y pris place, sage. On leva l'ancre. Sur le déclin de l'après-midi, le vent de terre nous apporta de subits effluves de citronniers, et peu d'instants après, Nous étions en vue de cette côte espagnole que domine la charmante cité de Santander, entourée à l'horizon des hauteurs verdoyantes. Le soir violaçait la mer, dorée encore à l'occident. Contre les rochers de la rade s'écoulait une écume de pierreries. Le steamer se fraya passage entre les navires. Un pont de bois, lancé de la jetée, vint s'accrocher à la proue. À l'exemple des autres passagers, j'abordai, puis m'engageai sur le quai rougi du soleil, au milieu d'une population nouvelle. On débarquait. Les colis pleins d'exotiques produits, les cages d'oiseaux d'Australie, les arbustes heurtaient les caisses de produits des îles. Une odeur de vanille, d'ananas et de coco flottait dans l'air. D'énormes fardeaux étiquetés de marques coloniales étaient soulevés, chargés, s'entrecroisaient et disparaissaient en rade vers la ville. Quant à moi, le roulis m'ayant un peu fatigué, j'avais laissé ma valise à bord et j'allais me mettre en quête d'une hôtellerie provisoire où passer une première nuit, lorsque, parmi les officiers de marine qui se promenaient sur la jetée en fumant et en prenant l'air de mer, je crus apercevoir le visage d'un ami d'autrefois, d'un camarade d'enfance en Bretagne. L'ayant bien regardé, oui, je le reconnus. Il portait l'uniforme de lieutenant de vaisseau. Je vins à lui. « N'est-ce pas, monsieur Gérard de Villebreuse, que j'ai l'honneur de parler ?» lui demandai-je. Et j'eus à peine le temps d'achever, avec cette effusion cordiale qui s'échange d'ordinaire entre compatriotes se rencontrant sur un sol étranger. Il m'avait pris les deux mains. « Toi !» s'écria-t-il, « mais comment toi, ici en Espagne ?»« Oh, simple excursion amateur, mon cher Gérard !» Et en deux mots, je le mis au courant de mon innocente envolée. Bras dessus, bras dessous, nous nous éloignâmes, liant causerie ainsi que deux vieux amis qui se retrouvent. « Oh, moi, me dit-il, je suis ici depuis 3 jours. J'arrive de plusieurs tours du monde et pour l'instant des Guyanes. J'apporte au musée zoologique de Madrid des collections d'oiseaux-mouches, pareilles à de petites pierres précieuses incrustées d'ailes. Puis des oignons, de grandes orchidées du Brésil, fleurs futures dont les couleurs et les capiteux parfums sont l'enchantement et la surprise des Européens. Puis, oh, un trésor, mon ami. Oh, je te ferai admirer l'objet. Un splendide rutilant et... il vaut au moins 6 000 francs. Il s'arrêta, puis se penchant à mon oreille. « Devina, délie, devine » ajouta-t-il d'un ton bizarre. À ce point confidentiel de la phrase, une petite main déliée, couleur de topaze très claire, se glissant entre lui et moi, se posa comme l'aile d'un oiseau de paradis sur l'épaulette d'or du lieutenant. L'on se retourna. « Ah, Catalina !» dit joyeusement Monsieur de Villebreuse. « Mais toutes tes bonnes fortunes ce soir !» C'était une jeune fille de couleur, hier une enfant, coiffée d'un foulard bleu feu d'où passaient à l'entour de son joli visage 1000 boucles crêpelées au ton noir bleuâtre. Rieuse, elle haletait doucement de sa course vers nous, montrant ses dents radieuses. La bouche épaisse, violemment rouge, s'entr'ouvrait, respirant vite. « Olé !» s'écria-t-elle. Et la mobilité de ses prunelles, d'un noir étincelant, avivait la chaude pâleur ambrée de ses joues. Ses narines de sauvagesse, aux senteurs qui passaient des lointaines Antilles, se dilataient. Une mousseline d'où tombaient ses bras nus sur le battement léger du sein. Sur les soieries brunes d'une basquine bariolée de rayures d'un jaune d'or, était suspendu à hauteur de la ceinture un frêle éventaire en treillis chargée de roses mousses, de boutons, à peine en fleurs, de tubéreuses et d'orangers. Au bracelet de son poignet gauche, tintait une paire de sonores castagnettes en bois d'acajou. Ses petits pieds de créole, en souliers brodés, avaient cette excitante allure habituelle aux filles paresseuses de la Havane. Vraiment, de subtiles voluptés émanaient de cette aimable jeune fille. À sa hanche, pour un moment, flambaient au dernier rayon du crépuscule les cuivreries d'un tambour de basque. En silence, elle piqua deux boutons de rose mousse à nos boutonnières, nous forçant ainsi de respirer ses cheveux tout pénétrés de senteurs de savane. « Nous dînons ensemble tous trois, » dit le lieutenant. « C'est que je n'ai pas encore d'hôtellerie pour cette nuit. Je viens d'arriver, » lui répondis-je. « Tant mieux, notre auberge est là-bas, sur la falaise en vue de la mer. » C'est cette haute maison isolée à 200 pas de nous. Vois-tu, nous aimons à tenir de l'œil nos bâtiments. Nous dînerons dans la salle basse avec des officiers de marine de mes amis, et sans doute quelques autres échantillons de la flore féminine de Santander. L'hôtel a du jerez nouveau. Cela se boit comme de l'eau claire, ce jerez les chevaliers. Il faut s'y habituer, par exemple. « Mais marchons, » ajouta-t-il, en enlaçant par la taille la jolie mulâtresse qui se laissa faire en nous regardant. La nuit recevait les derniers adieux d'un vieux soleil magnifique. Les îlots au ras de l'horizon semblaient des braises mouvantes. Le vent d'ouest sur la plage soufflait une âpre odeur marine. Nous nous hâtions sur la lumière rouge du sable. Catalina courait devant nous, essayant d'attraper avec son tambour de basque les papillons que les ombres tombantes chassaient des orangers vers l'océan. Et Vénus s'élevait maintenant dans le bleu pâle du ciel. « Nous aurons une nuit sans lune, » me dit Monsieur de Villebreuse. « C'est dommage. Nous eussions promené par la ville. Bah, nous ferons mieux. » « Est-ce à toi, cette si charmante fille ?» lui demandai-je. « Non, non, c'est une boutiquière du quai. Cela peut vivre d'oranges, de cigarettes et de pain noir, mais cela n'aime que ceux qui lui plaisent. Elles sont nombreuses sur les jetées espagnoles, mon ami, ces sortes de donneuses de roses. Cela change de Paris, n'est-ce pas ? Dans les autres contrées du monde, c'est toujours différent à chaque 500 lieues. Mon caprice à moi se trouve dans le 44e de latitude sud. Si le cœur te dit, fais-lui la cour. Tu es présenté comme elle s'est présentée. Libre à toi. Ah, mais voici l'hôtellerie. L'aubergiste, résigné au front, apparut, nous faisant accueil jovial. Mais au moment de franchir le seuil, le lieutenant tressaillit et s'arrêta, pâlissant à vue d'œil tout à coup. Sans aucune transition, le sympathique jeune homme était devenu d'une gravité de visage des plus saisissantes. Il me prit la main, et après un moment de songerie, les yeux sur mes yeux, « Pardon, mon cher ami, me dit-il, mais... dans la surprise que m'a causée ta soudaine rencontre, j'ai oublié que je ne dois pas et ne pourrais plus me divertir ce soir. C'est jour de deuil pour moi. C'est un anniversaire dont les heures me sont sacrées. En un mot, c'est jour pour jour que je perdis ma mère il y a 3 ans. J'ai dans ma cabine des reliques de la sainte et chère femme. Et naturellement, je vais m'enfermer avec son souvenir. Bon, alors, ta main, et à demain. Consolez-vous de mon absence, du mieux possible, ajouta-t-il en nous regardant. Demain, je viendrai t'éveiller. Une chambre pour monsieur, cria-t-il à l'hôtelier. J'ai regret, mais plus de chambre, répondit celui-ci. « Allons, tiens, » me dit M. de Villebreuse, préoccupé, « prends ma clé, on dormira bien, le lit est bon. » Son regard était triste et distrait. Il me serra encore la main, dit un bonsoir à la jeune fille, et s'éloigna vivement vers la rade sans ajouter une parole. Un peu stupéfait de la soudaineté de l'incident, je le suivis un instant de ce regard à la fois sceptique et pensif qui signifie « Chacun a ses morts ». Puis j'entrai. La Catalina m'avait précédé dans la salle basse. Elle avait choisi, près d'une fenêtre donnant sur la mer, une petite table recouverte d'une serviette blanche à la française et sur laquelle l'hôtelier plaça deux bougies allumées. Ma foi, malgré l'ombre de tristesse laissée en mon esprit par les paroles de mon ami, ce ne fut pas sans plaisir que j'obéis aux yeux engageants de cette jolie charmeuse. Je m'assis donc auprès d'elle. L'occasion et l'heure étaient aussi douces qu'inattendues. Nous dînâmes en face de ces grands flots qui encerclent avec un véritable amour sous les étoiles ce rivage fortuné. Je comprenais le babil rieur de Catalina, dont l'espagnol havanais se mêlait de mots inconnus. D'autres officiers, des passagers, des voyageurs dînaient aussi autour de nous, dans la salle, avec de très belles filles du pays. Tout à coup, au cinquième verre de Jerez, je m'aperçus que l'avis du lieutenant était bien fondé. Je voyais trouble et les fumées dorées de ce vin m'alourdissaient le front avec une intensité brusque. Catalina aussi avait les yeux très brillants, et deux cigarettes qu'elle me tendit après les avoir allumées décidèrent entre nous la griserie la plus imprévue. Elle posa le doigt sur mon verre, cette fois en riant aux éclats, me défendant de boire. « Trop tard !» lui dis-je, et glissant deux pièces d'or dans sa petite main. « Tiens, ajoutai-je, tu es trop charmante, mais j'ai le front lourd, je veux dormir. »« Moi aussi !» répondit-elle. Ayant fait signe à l'hôtelier, je demandai la chambre du lieutenant. Nous quittâmes la salle. Il prit un chandelier dans le plateau de fer duquel il posa une forte pincée d'allumettes. Le bout de bougie, une fois allumé, nous montâmes, éclairés de la sorte. Catalina me suivait, s'appuyant à la rampe, en étouffant son gentil rire un peu effronté. Au premier étage, nous traversâmes un long couloir à l'extrémité duquel l'hôte s'arrêta devant une porte. Il prit ma clé, ouvrit, et, comme on l'appelait en bas, me tendit vite le chandelier en me disant « Bonne nuit, monsieur !» J'entrai. À la trouble lueur de mon luminaire et les yeux de plus en plus voilés par le vin d'Espagne, j'aperçus vaguement une chambre d'auberge ordinaire. Celle-ci était plus longue que large. Au fond, entre les deux fenêtres, une massive armoire à glace importée là d'occasion, et par hasard sans doute, nous reflétait l'ami de la tresse et moi. Une cheminée sans pendule, apparemment. Une chaise de paille auprès du lit dont le chevet touchait l'ouverture de la porte. Pendant que je donnais un cours de clé, l'enfant, dont les pas, aussi surpris que les miens par cette insidieuse et absurde ivresse, chancelait quelque peu, se jeta sur le lit, tout habillé. Elle avait laissé en bas, sur la table, son tambour de basque et son éventaire. Je posai le chandelier sur la chaise. Je m'assis sur le lit auprès de cette rieuse fille qui, la tête sous l'un de ses bras, semblait déjà presque endormie. Un mouvement que je fis pour l'embrasser m'appuya la tête sur l'un des oreillers. Je fermai les yeux malgré moi. Je m'étendis tout habillé aussi auprès d'elle et très vite, sans m'en apercevoir, il n'y eut pas à dire, je tombai dans un profond et bienfaisant sommeil. Vers le milieu de la nuit, réveillé par une secousse indéfinissable, je crus entendre dans le noir car la bougie s'était consumée pendant mon repos, un bruit faible, comme celui du vieux bois qui craque. Je n'y accordais que peu d'attention. Cependant, j'ouvris les yeux tout grands dans l'obscurité. Et l'arrivée, la plage, la soirée, le lieutenant Gérard, la Catalina, l'anniversaire, le RRS, tout me revint à l'esprit en de très nettes lignes de mémoire. Un sentiment de regret vers ma petite villa tranquille des bords de la Marne évoqua dans ma songerie ma chambre, mes livres, ma lampe d'études et les joies de recueillement intellectuel que j'avais quittées. Une demi-minute se passa de la sorte. J'entendais auprès de moi la paisible respiration de la créole encore endormie. Soudain, le vent m'apporta le bruit de l'heure sonnante à quelque vieille église là-bas dans la ville. C'était minuit. Chose vraiment surprenante, il me parut. C'était une pensée tenant encore du sommeil, évidemment, une absurde, une insolite idée. Non, j'étais bien réveillé, cependant. Il me parut, dès les premiers coups qui tombèrent du clocher à travers l'espace, que le balancier de ce cadran lointain se trouvait dans la chambre, et de ses chocs lents et réguliers heurtait alternativement tantôt la maçonnerie du mur, tantôt la cloison d'une pièce voisine. En vain, mes yeux essayaient de scruter l'épaisseur des ombres au milieu de la chambre où ce bruit du battant continuait de scander l'heure à droite et à gauche. Je ne sais pas pourquoi, mais je devenais très inquiet de l'entendre. Et puis, s'il faut tout dire, le son de ce vent de mer qui, me semblait-il, passait à travers les interstices des fenêtres, je commençais à le trouver aussi bien étrange. Il produisait le bruit d'une sorte de sifflet de bois mouillé. Ainsi, accompagné du battement de l'invisible balancier et de ce mauvais bruit du vent de mer, ce lent minuit me paraissait interminable. Hein ? Quoi ? Que se passait-il donc dans l'auberge ? Aux étages d'en haut et dans les chambres avoisinantes, c'était des chuchotements très bas, brefs et haletants, un va-et-vient de gens qui se rhabillaient à la hâte, et de fortes chaussures de marine sur le plancher. C'étaient des pas précipités de gens qui s'enfuient. J'étendis la main vers la mulâtresse pour la réveiller. Mais l'enfant était réveillé depuis quelques minutes, car elle saisit ma main avec une force nerveuse qui me causa magnétiquement une impression de terreur insurmontable. Et puis, ah, voilà ce qui augmenta tout de suite en moi cette transe froide et me glaça positivement de la tête aux pieds. Et elle voulait, on s'était certain, mais ne pouvait parler, parce que j'entendais ses dents claquer dans le noir silence. Sa main, tout son corps était secoué par un tremblement convulsif. Elle savait donc, elle reconnaissait donc ce que tout cela signifiait. Pour le coup, je me dressai, et pendant que vibrait encore dans l'éloignement le dernier son du vieux minuit, je criai de toutes mes forces dans l'obscurité « Ah ça, mais qu'y a-t-il donc ici ?» À cette question, des voix rauques et dures qu'une évidente panique assourdissait et entrecoupait me répondirent de tous côtés dans l'hôtellerie « Eh, vous le savez bien à la fin ce qu'il y a !» On me prenait pour le lieutenant. Les voix continuaient. « Oh, diable ! Mais s'il faut pas être fou, sacré tonnerre, pour dormir avec le diable dans la chambre !» Et l'on s'enfuyait à travers les couloirs, l'escalier, en un tumulte. Autour de ces paroles, je sentis, d'une manière confuse, que je rêvassais béatement au milieu de quelques grands périls. Si l'on s'enfuyait avec cette hâte, c'était à n'en pas douter que le terrible de la chose inconnue devait être imminent. Le cœur oppressé par une anxiété mortelle, je repoussai la mulâtresse et je saisis à tâtons les allumettes dans le chandelier. Ah, ne serait-elle pas bientôt consumée? Je fouillai très vite ma poche. J'y trouvai un journal encore plié que j'avais acheté à Bordeaux. Je le tordis dans l'obscurité, en forme de torche, et je frottai fiévreusement contre le bois du chevet toutes les allumettes à la fois. Le fameux soufre mit du temps à brûler. Enfin, le destin me permit d'allumer mon flambeau de hasard, et je regardai dans la chambre. Le bruit s'était arrêté. Rien, je ne voyais rien, que moi-même reflété dans la glace de cette vieille armoire, et derrière moi, l'enfant, debout maintenant sur le lit, le dos collé à la muraille, les mains aux doigts écartés, posés à plat contre la maçonnerie blanche, les yeux dilatés, fixes, regardant quelque chose que l'excès même de mon saisissement m'empêchait d'apercevoir. Soudain, je renversai la tête, suffoqué d'une horreur si glaçante que je crus m'évanouir. Qu'avais-je distingué là-bas, dans la glace, reflétée aussi? Mais je n'osais positivement pas ajouter créance au témoignage affolé de mes prunelles. Ah, démon! Je regardais encore, et oui, je me sentis défaillir à nouveau. Mes yeux s'étant rivés, pour ainsi dire, sur l'objet évident qui réapparaissait à présent dans la chambre. Ah, c'était donc là le trésor de mon ami, le pieux lieutenant Gérard, le bon fils qui priait sans doute en cet instant dans sa cabine. De désespérés pleurs d'angoisse me volèrent affreusement les yeux. Autour des quatre pieds de la grande armoire et liés par un encroisement de fines garcettes de marine, était enroulé un conscriptor de l'espèce géante, un formidable python de 10 à 12 mètres, tel qu'il s'en trouve parfois sous les hideux nopals des Guyanes. Réveillé de son tiède sommeil par la douleur des cordes, l'effroyable ophidien s'était par un lent glissement coulé de 3,5 mètres environ hors des nœuds qui le desserraient d'autant. Ce long tronçon de la bête, c'était donc le balancier vivant qui heurtait tour à tour les murs à droite et à gauche pour s'étirer davantage de ses entraves pendant ce minuit. Maintenant, la bête, retenue encore, se tendait de bas en haut vers moi, du fond de la chambre. La longueur gonflée d'un brun verdâtre, taché de plaques noires aux écaillures à reflets de la partie libre de son corps, se tenait toute droite, immobile, en face de nous. Et de l'énorme gueule aux quatre parallèles, mâchoires horriblement distendues en angles obtus, s'élançait en s'agitant une longue langue bifide, pendant que les braises de ses yeux féroces me regardaient fixement l'éclairé. D'enragés sifflements de fureur, que lors du paisible dorlotement de mon réveil j'avais pris pour le bruit du vent de mer dans les jointures des fenêtres, jaillissaient, saccadés, du trou ardent de sa gorge, à moins de 2 pieds de mon visage. À cette soudaine vision, je ressentis une agonie. Il me sembla que toute ma vie se reproduisait au fond de mon âme. Au moment où je me sentais faiblir en syncope, un cri de sanglotant désespoir, poussé par la mulâtresse, par elle qui avait tout de suite reconnu dans la nuit le sifflement, me réveilla l'être. La tête furibonde en de petites secousses s'approchait de nous. Spontanément, je bondis par-dessus le chevet du lit, sans lâcher mon brandon dont les larges flammes parmi la fumée éblouissaient encore la chambre. Et j'ouvris la porte d'une main que vraiment l'égarement faisait tâtonner. L'enfant se laissa toute pantelante aller entre mes bras, sans cesser de considérer le dragon qui, nous voyant fuir, redoublait d'efforts et de sifflements horribles. Je m'élançai avec elle dans le grand couloir en tirant très vite et violemment la porte sur nous, pendant qu'un terrifiant bruit d'armoires brisées et s'écroulant, mêlé au sinistre choc des lourdes volutes de l'animal, se heurta en monstre, en furie à travers la chambre où roulaient des meubles, nous parvenait de l'intérieur. Nous descendîmes avec la rapidité de l'éclair. En bas, personne, salle déserte, porte ouverte sur la falaise. Sans perdre de temps en oiseux commentaires, nous nous précipitâmes au dehors. Sur la grève, la mulâtresse, m'oubliant, s'enfuit en une course éperdue vers la ville. La voyant hors de danger, je pris mon vol vers la rade, dont les falots luisaient là-bas, m'imaginant que l'effrayant animal roulait ses anneaux le long de la plage sur mes talons et allait m'atteindre d'un moment à l'autre. En quelques minutes, ayant ressaisi ma valise à bord du véloce, je courus à l'embarcadère du steamer La Vigilante, dont sonnait la cloche de départ pour la France. 3 jours après, de retour à ma chère et tranquille maison des bords de la Marne, les pieds dans mes pantoufles, assis dans mon fauteuil et enveloppé dans ma paisible robe de chambre, je retrouverai mes livres de métaphysique allemande, me trouvant l'esprit suffisamment reposé pour remettre à une époque indéfinie tout projet de nouvelles incursions récréatives à travers les contingences du monde phénoménal.